Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 à l'émission Boisvert Radio. Je suis Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Grosse émission au programme ce soir. On va recevoir Daniel Savoie, comédien, scénariste, réalisateur et participant là, de la dernière édition de Big Brother Célébrité, qui sera avec nous au téléphone vers 21h10. Juste avant, je vais vous présenter mes deux chers collaborateurs qui sont avec moi ce soir. D'abord, Mathis Bouchard-Rouleau, qui est très fatigué, mais qui est en forme. Salut Mathis, ça va bien?
Salut Charles, oui, ça va bien, malgré la fatigue. Là, on va essayer d'être capable de toffer encore une petite heure. Après ça, c'est le dodo. Hein. Avant le dodo, le mardi, c'est Boisvert Radio. On garde le slogan, puis
exactement.
On fait honneur.
Un slogan que j'adore. Et à ma gauche, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'était pas là. Le grand retour, Alexandre Billette. Merci d'être là. Enfin.
Merci de l'invitation, Charles. Un grand retour qui fait du bien. J'avais très hâte de venir en studio avec vous, les gars, aujourd'hui. Je suis très content d'être là.
Une chance que tu as été éliminé à la Ligue Intra.
Une chance que mon équipe n'est pas bonne. Ça me permet de faire un Boisvert Radio le mardi soir.
On espère que personne de ton équipe n'était à l'écoute. Donc, au planning ce soir, on reçoit Daniel Savoie, comme je disais, vers 21h10. On va parler là, de hockey comme on est capable de le faire pendant des heures, mais on va le faire pendant une demi-heure, vers 21h30, là, après la pause publicitaire de tantôt. Et avant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose dans l'actualité sportive. Qu'avez-vous pensé de l'éclipse solaire?
Ah, Charles, si on parle de l'éclipse solaire, moi, tant qu'à ça, je vais parler de Juraj Slafkovský qui vient de faire son tour de chapeau. Mais moi, oui. L'éclipse solaire, j'avais peur de me brûler les rétines, fait que je l'ai pas regardé.
Ah ouais. Même sans les lunettes?
C'est ça, sans les lunettes, j'avais trop peur de
là, je veux dire avec les lunettes.
Mais c'est ça, parce qu'avec les lunettes, je veux dire, je veux bien, là, mais il y avait des fraudes avec ça, puis on sait pas, hein, il y en a qui étaient fausses. J'ai vu ça aux nouvelles. Puis moi, je me suis dit, je veux dire, mais regardez le soleil direct dessus, là, tu fais jamais ça, là. C'est pas parce qu'il y a des petites lunettes avec des faux sacs de plastique d'un verre que ça va marcher, là. Mais j'étais plus hype pour le bout où il allait faire noir en plein milieu de l'après-midi.
Ouais, ça c'était
mais
quand même.
Honnêtement,
cool.
C'était quand même cool, là. Je me suis pris une petite bière sur mon balcon avec mon coloc, puis on a regardé ça, puis c'était quand même spécial de voir ça. Mais ouais, c'est ça, là. Sans plus, honnêtement, là, je suis pas un fan de. D'astrologie, là, vraiment. Fait que.
Toi, Alex?
Moi, je l'ai même pas regardé parce que j'avais pas de lunettes de protection. Fait que je me suis dit, je vais pas perdre la vue pour une éclipse solaire. Fait que.
Exact, t'as bien fait.
On n'est pas fous, les gars. Hey, on se voit présentement. J'adore. Merci à l'éclipse et aux lunettes et à nous qui ont décidé de plus ou moins la regarder pour pouvoir avoir la vue encore une fois. C'était une petite blague. Mathis, tu voulais mentionné Juraj Slafkovský. Puis c'est vraiment drôle parce que, Alex, tu disais avant de rentrer en onde, je suis parti de chez nous, c'était 2-0 Canadien. Et là, présentement, c'est 6-0 Canadien. Résultat là, de fin de deuxième période contre les Flyers de Philadelphie. Équipe en pleine bataille pour les séries éliminatoires. Pour vrai, cette descente aux enfers que cette équipe-là a connue, ça n'a pas de bon sens.
C'est ça, la dernière fois que je suis venu, là, je me rappelle, on tripait sur les Flyers, mais on était comme, mais
quelle saison,
qu'est-ce qu'ils font là? Et là, avec leur défaite de ce soir, évidemment, ils vont perdre. Contre les Canadiens, ça fait mal.
Il reste
3-4 matchs à jouer, puis tu peux pas te permettre de. Tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait, quand il y a 5 équipes encore en liste là, pour aller chercher la place en séries éliminatoires. Ça
deux
fait très
places,
mal. Là. Contre Montréal, là, c'était inévitable à aller chercher.
Je pense que l'effet tournant a vraiment été quand Sean Couturier a été benché pendant deux games en ligne. Je pense que ça a complètement changé.
Tortorella a perdu le vestiaire.
C'est ça, a changé tellement la chimie de l'organisation. Puis là, on voit sur une séquence de 7 défaites en ligne. Puis là, un 6-0 contre le Canadien de Montréal. Sans rien enlever aux Canadiens que j'adore. Là. C'est pas normal de perdre 6-0 après deux périodes contre les Canadiens. Là. Surtout quand tu te bats contre pour une place en série. Là, je peux même pas concevoir qu'ils se sont permis de perdre 6-0 après deux périodes.
On voyait sur les réseaux sociaux, le Canadien est maintenant dans le top 5 des moins bonnes équipes de la Ligue. Et là, les Flyers sont en pleine course aux séries. Et là, te colle 7 défaites de suite. Et là, 6-0 en deux périodes contre le Canadien. Avec Christian Dvorak qui marque à son retour au jeu. Je savais même pas qu'il existait encore, lui. Juraj Slafkovský, son premier tour de chapeau en carrière. Ouais. Wow.
Ah, c'est un beau début de match pour les Canadiens, ça c'est sûr, mais tu sais après moi je me dis tantôt j'ai vu ça puis j'étais comme on veut plus en gagner
non,
les
c'est
matchs,
ça, on veut descendre
là,
au classement.
Montréal là en ce moment avec une victoire, on rattrape Ottawa au classement. Tu sais, les rattraper, ça reste des pourcentages de moins qu'on a pour la loterie. Moi, rendu à 77 matchs, là, pis qu'on est sûr de plus faire les séries, vaut mieux perdre tant qu'à ça, tu sais.
Ouais, je suis d'accord avec toi, jusqu'à temps que je vois des joueurs comme Slavkovski marquer 3 buts dans un match, pis je suis comme
ça. Tu peux jamais dire non,
c'est
là.
Tellement encourageant pour
avant
la relève.
Avant le match, tu dis, bon, ben, le Canadien pourrait perdre, hein, ça pourrait nous rapprocher, pis là, tu vois le match, pis là, tu vois le Canadien jouer de même, tu sais, ils jouent de la bonne façon. Ils font, tu sais, veux pas, le monde au Centre Bell présentement vit des émotions. Hey, ils sont contents de voir le Canadien gagner 6-0, ils sont contents de voir Juraj Slavkovski marquer 3 but. Mm. Sont contents de voir Christian Dvorak marquer.
C'est
la dernière fois qu'on était en onde, je me rappelle, je comparais Slavkovski à Kotkaniemi. La dernière fois qu'on
c'est
était en onde.
C'est une comparaison qui se faisait.
Aujourd'hui, je regrette tellement de l'avoir comparé.
Honnêtement, tu sais, je veux dire, la comparaison était pas mauvaise. Exemple que tu regardes l'année passée ou encore en début d'année, mais Slavkovski a tellement levé son jeu d'un cran. Ouais. C'est incroyable. Je veux dire, dans l'attaque du Canadien, après Suzuki, je ne sais pas si je mets Caulfield ou Slavkovski, tu sais. Slavkovski prend vraiment de l'ampleur, puis tu sais, c'est normal, c'est un premier overall, il va être bon, on le sait, on le compare à Rantanen, des gros joueurs, puis en ce moment, c'est ce qu'il est en train de prouver. Mais tu sais, Jack Hughes, ça a été long avant qu'il fasse des points. Là, Slavkovski, ben, on est en train d'être patient, puis ben, ça finit par payer.
Puis là, l'important, c'est qu'il reste en santé. Là, on vient de voir Jack Hughes aujourd'hui, c'est sorti pour le restant de la saison. Un autre joueur qui, cette année, il n'a pas pu performer à la hauteur de ses capacités parce qu'il était blessé. J'espère que Slav, là, il a compris un peu comment plus encaisser les mises en échec. Il se blesse moins, il a moins la tête à terre, mais j'espère qu'il va pouvoir, pour les 2-3 prochaines saisons, rester en santé pour qu'on arrête d'avoir des Kirby Dak qui se blessent après 2 matchs, des New York qui manquent la moitié de la saison. Là, il faut que les Canadiens restent en santé, là, ça n'a pas de sens.
Les blessures, c'est incroyable comment ça peut changer une équipe au grand complet, comment ça peut nuire aussi au
développement des joueurs.
Développement d'un joueur, là, c'est fou. Là, je vois Charles qui me fait un signe d'arrêter. Je pense que c'est
d'accélérer. Mais non, c'est ça. Ce que je voulais juste rajouter avant de terminer, c'est que je trouve ça très drôle que le Canadien va finir comme dans les 6 dernières équipes de la Ligue. Puis c'est la première saison depuis tellement longtemps qu'on a enfin un vrai premier trio de renom qui fonctionne et qui est stable.
Ouais.
Ben ça va
pas. Vas pas me dire que les années où on avait Desharnais, ben ça date de Desharnais, Pacioretty puis Eric Cole, je pense vraiment là. Ouais.
On parle pas du même niveau de talent.
Ben, je sais, mais quand même, tu voyais ce premier trio là à l'époque, puis là t'étais genre.
Puis en plus, ils vont
enfin.
Tu sais, d'année en année, ils vont être de meilleurs en meilleurs également là.
Pis je pense que les trois se poussent à être meilleurs aussi.
Ah,
là.
C'est clair.
T'sais, le plus juste, c'est Suzuki à 23 ans.
Ouais, c'est ça. Ça c'est cool. Puis moi, une stat que j'ai vue qui m'a fait capoter, c'est que le dernier pointeur de 82 points, c'est Alex Kovalev. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un... Tu sais, c'est pas tant normal que ton premier centre, un gars de première ligne, fasse même pas 82 points. Quand tu regardes dans la
LNH... C'est ça, le BNH, c'est rendu la norme.
Il y en a pas beaucoup qui font 82 points.
T'en as au moins un par équipe, puis il y en a pas eu depuis Kovalev. Ça fait pas de sens.
Quelle équipe n'a pas de marqueur de 82 points? Anaheim? Columbus?
Ben pour voir, on est déjà rendu à comme 9... joueur de 100 points là.
Ouais, c'est ça, c'est impressionnant.
C'est fou, les 82 points, t'en as que j'ai pas les stats live là. Probablement à la fin de la saison, tu vas en avoir une quarantaine facile là.
C'est ça.
Donc
non, mais c'est ça, ça fait mal quand t'en as pas dans ton équipe, mais je pense que les trois gars sont possiblement des gars dans 2 ans
de point par match,
disons, qui vont faire un point par match et plus, fait que ça c'est cool pour l'avenir à Montréal.
Tout à fait. On va aller en pause musique à l'instant. Le Festif de Baie-Saint-Paul a sorti sa programmation récemment et on a Carquois qui va être là, qui est aussi au Festival d'été. Donc, on s'en va écouter ce vieux groupe qui revient ensemble.
Carquois, puis en plus, là, ils ont la carte blanche sur la grande scène. Ouais. Au fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. C'est tout le temps cool d'entendre leur rock.
Tout à fait.
Folk. Ouais.
Ouais,
folk rock.
Mélangé.
Leur mélangé. Alors
tout
oui.
À fait.
Écoutons Carquois pour leur mélanger. C'est parti.
Hey, sur. Oui, vraiment, Mathis, merci de cette superbe transition. On s'en va à musique. Daniel Savoie est là après la pause. Restez là à Boisvert Radio.
Un tollé à la chambre de commerce. Une pilule pour traverser l'averse, le cafard à la porte et plusieurs milliards dans la compote. King le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Et les combats calendrier. Les éclats de larmes sur le plancher, brûlantes sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche. J'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. Mais on fait la file comme des cons, lavés comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens.
De retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Vous venez d'entendre Carquois. Et comme je vous l'ai mentionné là, au début de l'émission et juste avant d'aller en pause musicale, ben, on reçoit ce soir Daniel Savoie. Daniel Savoie qui est un comédien, qui est un scénariste, qui est un réalisateur et qui a participé dernièrement là, à la toute dernière mouture de Big Brother Célébrité. On le rejoint à l'instant au téléphone. Daniel, est-ce que tu nous entends bien?
Très bien. Salut Charles, comment vas-tu?
Ça va super bien. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Daniel, on te connaît surtout pour ton personnage emblématique de Patrice Lemieux. On en parlait là, justement avant d'entrer en onde. Là, Alexandre nous parlait un mot, Montréal Autoprix. On s'en souvient, tout le monde. Tout le monde se souvient de ça. C'est quoi? Quelles ont été les inspirations qui ont aidé à bâtir là, ce personnage-là de Patrice Lemieux?
Ben écoute, ça s'est fait assez naturellement là. C'est vraiment lorsque Mario Lemieux a fait son retour au jeu. Là, on parle de quelque chose qui est peut-être lointain là pour des gens plus jeunes, peut-être comme toi qui est à l'université. Mais en 2001, Mario Lemieux est revenu de sa retraite. Puis moi, à ce moment-là, ben j'étais un adolescent, puis j'étais bien gros attentif à tout ce qui se passait dans la Ligue nationale, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à plus remarquer là, que tu sais, Mario en entrevue, sa façon de parler, c'était vraiment intéressant. Puis ça a commencé que j'ai tout simplement imité Mario Lemieux. Puis de fil en aiguille, bien, cette imitation-là a perduré dans le temps. Puis à un moment donné, j'ai créé vraiment un personnage en tant que tel qui s'appelle Patrice Lemieux, mais avec l'inspiration initiale là, de Mario.
À ton avis, pourquoi est-ce que ce personnage-là a été autant marquant pour justement cette jeune génération comme moi, Alexandre et Mathis, là, qui ont grandi en regardant le hockey, mais en suivant les aventures de Patrice aussi?
Je pense que c'était le premier personnage de hockey, dans l'univers du hockey, qui avait un ton un peu plus juste. tu sais, il y a plusieurs humoristes qui ont fait des parodies de joueurs de hockey, mais c'était souvent, tu sais, très marqué. Parce que je pense que là, ça a plu aux fans de hockey autant qu'aux fans d'humour. Je pense que ça a été la grande force de Patrice Lemieux, très réaliste. Tu sais, les gens se demandaient, c'était le but aussi au début, hein, tu sais, c'était vraiment de jouer sur les codes. De faire en sorte que les gens se demandent est-ce que ça existe, est-ce qu'il existe pour vrai, lui? Puis ça a été ça beaucoup là, au début, là, dans les premiers mois, il y avait comme un mystère entourant un petit peu Patrice, là, tu sais, c'était pas donné sur un plateau d'argent que c'était un personnage. Je pense que ça a vraiment contribué à faire un effet plus positif.
Ben justement, tu parles de cette ligne-là floue entre le personnage puis le réalisme. Je pense que plusieurs Québécois ne savaient pas qui était nécessairement Daniel Savoie, mais connaissaient Patrice Lemieux. Ça t'est-tu déjà arrivé de te promener puis de te faire appeler Patrice? Ou comment tu vivais avec ce personnage-là?
Constamment. Quand ça a commencé en 2012, pour les années qui ont suivi jusqu'en 2019, là, moi, je me suis appelé Patrice Lemieux constamment. Ouais. Et les gens ne connaissaient pas Daniel. Puis ça, c'est ça qui a été aussi un peu une gestion pour moi, là, d'apprendre à vivre avec cette répercussion-là. Puis là, justement, d'être allé faire Big Brother tout ouais. dernièrement, mais ça a vraiment aidé, je pense, à me faire découvrir moi en tant qu'humain, dans le fond. Puis d'un petit peu là, tu sais, de replacer en perspective, justement, le personnage, puis moi, la personne que je suis.
C'est toi qui as beaucoup scénarisé, réalisé toutes ces aventures-là de Patrice Lemieux.
Ouais.
C'est quoi ta vision, mettons, en tant que... T'es pas en tant que comédien, en tant que réalisateur, c'est quoi ta vision du personnage? Comment tu le vois? Comment tu le décrirais à quelqu'un qui n'a jamais vu Patrice Lemieux?
Bien, en tant que réalisateur, par rapport à Patrice Lemieux, c'était vraiment important pour nous de jouer sur le code, justement, de jouer sur les codes, que les codes soient les plus près de la réalité possible. Donc, tu sais, la série Patrice Lemieux, les pubs qu'on faisait pour Montréal Autoprix, tout ça, ouais. C'était toujours de pas mettre trop d'emphase par rapport au contenant, que l'humour vienne vraiment du contenu, mais que ça soit toujours sur une ligne très fine. Je pense que c'était ça l'idée. Pour vraiment laisser du réalisme puis faire planer le doute, là, ou du moins, tu sais, jouer sur le fait que on n'est pas trop dans la parodie. Vraiment jouer sur cette ligne-là, tu sais.
On l'a mentionné plus tôt, là, t'as été de passage à Big Brother Célébrité, que t'as quand même fait un excellent parcours et tu t'es rendu très loin, là, malheureusement éliminé dans une épreuve à élimination subite, on peut dire ça de même, ouais, là, contre ouais. l'autre que Charles Hamelin quand même.
Ouais.
T'es quand même, je pense que t'es un grand sportif, t'es un grand amateur de sport. Comment ça a été d'être coupé du monde du sport comme ça, dans une maison à Big Brother Célébrité?
Ouais, c'était dur quand même d'être coupé du monde en général. T'sais, oui, du monde du sport, mais il faut comprendre que Big Brother, t'es coupé de tout. Là, tu vis dans un vase clos avec 16 personnes, 15, 14, 13, ça descend.
C'est
comme
production.
Moi, quand je suis sorti, ça a été de faire « Oh, OK, les nouvelles que j'ai manquées. » Je suis sorti, j'ai dit « Qu'est-ce que j'ai manqué? » Personne m'a dit « Hey, Patrick Roy est coach des Islanders. » C'est trois jours après que j'ai fait « Regarde les nouvelles. » Hey, Patrick Roy, là, j'étais là. Hey! Là, il y avait une game entre les Sharks et les Islanders. Puis là, j'ai compris qu'il était coach. J'étais là, j'étais allé googler pour savoir quelle équipe. Là, j'étais là, les Islanders. Oh, ouais. Fait que ça a été vraiment un petit moment cocasse pour moi. Mais c'est sûr que tu sais, il y a eu des moments, je pensais aux Canadiens, je pensais à la Ligue nationale en général, tu sais, de dire ah, ça doit être rendu comment. Puis je me souviens que quand je suis sorti, c'était le trade deadline. Mm. Puis, comment ça marche, Big Brother, c'est qu'on a comme un trois jours de tampon à l'hôtel là, pour rester comme caché, pour pas divulguer là, qui sort là.
Ouais.
Et à l'hôtel, je m'en souviens qu'on n'a pas le droit d'écouter la télévision, mais j'avais comme une petite entrevue là, dans un raccoin de l'hôtel, puis il y avait une télé qui jouait, puis du coin de l'œil, c'était le trade deadline, puis j'étais complètement accaparé par ça. Là, je regardais ça passer, puis j'étais là, oh shit, OK, puis j'essayais de capter le plus d'informations possible. Là, c'est là que j'ai vu que le Canadien avait échangé le gardien Jake Adams, tu sais, plein d'affaires dans mais non, c'est sûr que tu sais d'avoir manqué quand même 9 semaines de la saison, puis là de voir à quel point c'est une saison offensive, tu sais, de voir Kucherov, McKinnon, ces gars-là qui ont des saisons monstres, McDavid aussi, c'est vraiment intéressant. Puis là, tu vois, ça fait un mois que je suis sorti, puis je me sens à jour, là, parce que maintenant, tu te reconnectes avec la réalité. Mais belle expérience quand même. C'est pas, tu sais, c'est spécial. Donc, t'es jamais déconnecté à ce point-là de la réalité puis des nouvelles.
Ouais. Allô Daniel, mon nom est Mathis, là, je suis collaborateur avec Charles ce soir. Moi je voulais savoir, tu sais, Big Brother, c'est vraiment un jeu qui est difficile mentalement à ce qu'on entend. Je voulais savoir comment tu as vécu ton expérience, parce que c'est pas tout le monde qui va vivre ça dans sa vie, puis tu vis pas ça tous les jours non plus. Comment ça se passe? Comment tu vis ça? Puis sur le mental, est-ce que c'est vrai que c'est tough?
Oui, c'est une expérience qui est tellement enrichissante, mais en même temps, c'est une expérience qui est complète. Tu sais, t'as des moments heureux, t'as des moments un peu plus difficiles. Je pense que c'est d'apprendre à... Ça va être cliché, mais là, vous êtes dans une mission de sport, vous allez comprendre, là, c'est de jamais monter trop haut puis descendre trop bas. C'est un peu comme un sportif, là, tu sais, quand t'as une série de victoires, faut pas que tu te laisses emporter une série de défaites non plus, c'est de rester neutre. J'essayais de rester le plus... pas le plus froid, là, mais le plus stable possible dans mes ups et dans mes downs. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Pis après ben, ça, une expérience comme ça permet d'en découvrir sur toi-même. Tu sais, veux pas, t'es vraiment confronté à toi, à qui tu es. Fait que moi, de mon côté, j'ai quand même été agréablement surpris de la façon que j'ai réagi à ça. Ben c'est sûr qu'après ça, ça aide là, à aller plus loin. Rester calme. C'est vraiment de rester calme, même dans l'adversité. Là, tu sais, j'ai eu un parcours où beaucoup de gens voulaient me sortir, mais c'est de rester calme puis de voir les possibilités. Honnêtement, le sport m'aide beaucoup. Mon background de sport, même si je suis pas un sportif de haut niveau, j'ai toujours joué au hockey, puis je suis très compétitif, très sportif. Puis je suis vraiment revenu dans ce mindset-là de tout simplement là, me dire OK, affronte un match à la fois, mais là, c'est une journée à la fois, une semaine à la fois, puis y aller comme ça, là, tu sais, là, en restant concentré dans le moment.
Dans la maison à Big Brother, il y avait plusieurs sportifs de renom quand même au Québec. Là, Charles Hamelin, Patrick Côté, également Frédéric Turgeon, qui est une athlète à découvrir. Il y avait également des amateurs de sport comme toi, Dominic Martineau notamment. Comment c'était un peu la vibe justement avec le monde du sport à l'intérieur de la maison?
C'était vraiment intéressant. Premièrement, moi, d'avoir la chance de partager une maison, puis ta vie là, avec des gens comme ça, c'est vraiment intéressant. T'sais, un gars comme Charles Hamelin, c'est sûr, ce qu'on a vu à la télé dans le résultat final, c'est très, très... c'est pas tout à fait la réalité de l'homme. C'est un gars qui est très, très, très humain, très attachant, très charismatique. Puis, tu sais, veux pas, c'est une légende, là. Tu sais, Charles Hamelin, 6 médailles d'or.
C'est olympique, là, wow.
Lui puis moi, on a eu des belles discussions. Tu sais, j'ai posé des questions sur ses parcours. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup aussi en Corée du Sud, à des endroits comme ça. Puis lui, avec le patin, tu sais, il a voyagé à plein d'endroits. Fait qu'on échangeait sur ses expériences aux Olympiques, tout ça. D'avoir la chance de faire ça, tu sais, vraiment, tu sais, sur une base très, très personnelle, d'échanger comme ça, c'est vraiment... tu sais, c'est pas donné à tout le monde, là. Puis c'est un privilège, là, finalement. Puis même chose avec Pat Côté, tu sais... Quand tu regardes son parcours à Pat, il a été dans l'armée, après ça, il est allé dans l'UFC, toute une carrière, tu sais, de pouvoir juste être assis avec une personne comme ça, puis jaser, puis tu sais, on s'entend, là, c'est pas jaser, sur le bord, dans un 5 à 7, un petit 10 minutes sur le play, tu sais, on vit ensemble, fait que, tu sais, c'est des discussions qui, automatiquement, tu sais, prennent une tournure tellement plus profonde, dans le sens où ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on est là, on fait la vaisselle, on fait à manger, tu sais, fait que, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, je parle de ces deux gars-là, évidemment, que, tu sais, ils ont comme un aura autour d'eux, mais tout le monde a comme une histoire intéressante aussi. Ouais. Donc, l'expérience est vraiment enrichissante à ce niveau-là.
Mais ça, c'est un regroupement de tellement de personnalités différentes au même endroit qui se connaissent pas nécessairement, que ça doit donner quand même un drôle de mélange. Là, comment vous faites pour tous vous connaître rapidement?
Ben c'est tout naturel, là, tu sais, mets 16 personnes dans une boîte, pas de fenêtre, puis ça sera pas long que ça se met à jaser, puis ça déconne, là, tu sais, là on parle de, ben imagine un week-end dans un chalet avec des amis, ben là c'est pendant, pour moi, 9 semaines, là, ouais. C'est inévitable, là, que tu te connais, puis assez vite, merci, là.
Tu parlais tantôt de voyage en Corée du Sud. J'ai lu également que tu en as fait au Vietnam notamment. Donc, tu voyages quand même beaucoup. Puis, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que ça t'aidait à écrire, à avoir des idées. Parle-moi un peu justement de ces voyages-là qui sont quand même intimement reliés à ton travail. Là.
Ouais, exact. Tu sais, pour écrire, moi, j'ai écrit évidemment les deux saisons de Patrice Lemieux 24/7 là, qui ont été diffusées sur Super Écran il y a quelques années déjà. Puis plus récemment, la série La Maison Bleue.
Ouais.
Puis, tu sais, pour écrire, c'est une routine. Hein? Écrire, c'est réécrire. Écrire, c'est vraiment être bien installé dans une routine. Puis moi, pour moi, c'est vraiment ça. Faut se lever le matin, écrire. Après ça, le refaire. Plus t'as une routine, plus, pour moi, puis plusieurs auteurs vont dire la même chose. C'est un peu une formule qui est gagnante. Fait que pour moi, de me délocaliser, ça m'aide parce que ça m'enlève justement là, des distractions de la vie quotidienne. Puis, disons que tu pars un mois, deux mois quelque part, ben là, ce que tu as à t'occuper justement en disant « je m'en vais écrire », ben c'est ça. Tu te lèves le matin, t'écris, t'es comme en dehors de la loupe, là, de tes amis, de la famille, et ainsi de suite. Fait que c'est un luxe que j'ai eu la chance de faire. Je compte continuer à le faire dans le futur, comme justement la semaine prochaine avec ma copine, on s'en va au Mexique, sur la côte du Pacifique. On s'installe là pour un mois. Là, j'ai un projet d'écriture de film que je dois démarrer.
Oh.
Fait que ça va être le prochain endroit là où je vais m'installer. Ça en même temps, c'est loin de l'utile à l'agréable, tu sais, ça permet d'être délocalisé, de vivre des expériences, puis en même temps, c'est ça, quand j'ai la chance de pouvoir le faire, fait que j'en profite.
L'instinct journalistique en moi a entendu quelque chose, puis j'ai envie de creuser là-dessus. Tu travailles sur un film présentement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là?
Oui, je peux vous dire que c'est un projet qui est en développement. Je ne peux pas vous dire vraiment plus de choses, on commence l'écriture. Quand on va avoir vraiment des confirmations, tu sais, c'est sûr que ce milieu-là, des fois ça, ouais. On commence à travailler, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je peux vous dire que c'est une comédie qui devrait, si tout fonctionne bien, qui devrait être tournée l'été 2025, donc pas cet été, l'été suivant. C'est ça, une comédie avec c'est ça. Je peux pas en dire plus, mais c'est un beau projet.
Ah, c'est le fun. Puis est-ce que t'as d'autres projets, par exemple, cet été, qu'est-ce qui t'attend en termes de projet?
Et en termes de projet, là, encore là, je sors de Big Brother, fait que j'ai beaucoup de beaux projets qui sont sur le feu, comme on dit. Malheureusement, je peux pas trop m'avancer à ce stade-ci parce que je suis comme dans une phase où, tu sais, pour faire Big Brother, faut un peu mettre les trucs de son agenda un peu sur hold, là, c'est notamment l'expression. Fait que, en sortant de là, c'est comme si tout reprend, mais il est encore trop tôt pour faire des annonces publiques, mais je peux dire que il y a des belles choses qui s'en viennent, puis sans trop m'avancer, là, je peux vous dire qu'à l'intérieur de la maison de Big Brother, j'ai eu une belle relation d'amitié avec Joëlle Paré-Beaulieu, la comédienne.
Ouais.
Fait que je parierais pas contre le fait qu'elle et moi, on travaille sur quelque chose qui aboutisse à l'écran prochainement.
Ça serait,
on va laisser ça comme ça.
Ça serait super intéressant de revoir le fameux duo de Jojo et Dan à l'écran. Un duo marquant là, de la dernière saison de Big Brother. Je voulais terminer notamment en parlant, revenir encore sur tes voyages, parce que je me demandais qu'est-ce qui... On parlait de l'Asie, là, tu t'en vas au Mexique. Qu'est-ce qui t'inspire là-bas pour l'écriture, sachant que ce que t'écris, ce projet-là, sera probablement réalisé au Québec dans un environnement qui est complètement différent de ce que t'es là-bas?
Oui, ça n'a rien à voir avec aller là-bas pour chercher de l'inspiration par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est vraiment de se délocaliser puis de se retrouver dans une culture différente. Je trouve que moi, en tout cas, ça me nourrit beaucoup. Au Vietnam, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là. J'ai même pris des cours de langue. Je parle maintenant un peu là pour dire que je suis capable de communiquer un peu en vietnamien. C'est surtout d'être immergé dans une culture qui est tellement différente. Puis je trouve que ça, c'est stimulant au niveau créatif. sais, d'être dans un univers où tout est différent finalement, là, la langue, la façon de penser, la circulation, comment la vie se vit là-bas. Fait qu'après ça, on dirait que c'est comme un petit choc, là, tu sais, un petit changement. Puis après ça, c'est stimulant justement là, quand tu t'assois. Moi, j'aime bien là-bas là, aller m'asseoir dans des cafés justement, puis passer 3-4 heures, écrire. Après ça, tu sors de ton café, tu te promènes, c'est tellement différent. Après ça, tu repenses à tes idées. C'est chacun sa recette, j'imagine, là, mais celle-là fonctionne vraiment bien pour moi. Puis c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, je pense.
Excellent. Daniel Savoie, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de nous parler ce soir. Je te souhaite vraiment le meilleur dans le futur de tes projets, puis on a hâte de te revoir là, au petit écran et au grand écran peut-être.
Eh bien, c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de me jaser, les gars, puis bon succès à vous. Vous êtes vraiment très bons.
Ah ben merci. On te renvoie le compliment. Merci beaucoup. Bonne soirée.
All right, vous aussi. Bye-bye.
Daniel Savoie, comédien, réalisateur, scénariste, auteur, participant à Big Brother Célébrité, viennent nous jaser au téléphone. Pendant l'entrevue, c'est rendu quoi? 8-1 Canadien?
Oui, c'est rendu 8-1 fou. Canadien.
8-2. 8-2, ouais. Joel Farabee a marqué. Ouais. Donc, entrevue très intéressante. On y revient après la pause. Donc, restez là à Boisvert Radio sur les ondes de Schiste 94.3. On est de retour dans quelques instants.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
M'a te parlé une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'oie.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Chiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudonc, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
Mais chérie, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
On Mukau Sitz.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
L'art des histoires, une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Un réel délice?
Un réel délice.
Quoi?
Un
ben bon c'est délice. Boisvert Radio, on est de retour sur les ondes de Chiz 94.3. Avant la pause, on a parlé avec Daniel Savoie, homme aux multiples chapeaux qui nous a offert une entrevue super intéressante, puis ben, je veux encore une fois le remercier d'avoir pris le temps quand même, parce qu'en sortant de Big Brother, t'es comme un plongé dans le paysage médiatique de Bell Media et même de toutes les entreprises. T'sais, tu fais le tour, tu t'en vas à Rouge, tu t'en vas à Énergie, tu te promènes sur 58 émissions à nouveau, puis de trouver le temps pour
Boisvert Radio.
Pour Boisvert Radio.
Mais tu l'as dit, hein, c'est un délice, Boisvert Radio. C'est sûr qu'il avait envie, tu sais, il a soupé, il s'est dit un petit dessert, bon, un petit délice, Boisvert Radio.
T'es avant le dodo, rien de mieux que Boisvert Radio.
Et voilà.
Puis je trouvais ça vraiment drôle parce que, pour l'anecdote, j'ai contacté Daniel pour la première fois au mois de décembre. Puis, il m'avait, j'ai envoyé mes dates de courriel possibles. Puis, il m'a envoyé, je pars dans un voyage au Vietnam, relance-moi vers fin février. Mais parce qu'évidemment que Big Brother commence la première semaine de janvier et que le dévoilement des célébrités-là doit être une totale surprise.
Ah, fait qu'il pouvait pas te le dire. Fait
donc, il pouvait pas me dire, ah oui, je m'en vais à Big Brother, haha, on s'en reparle après. Fait que là, il m'a dit, ah ben je m'en vais au Vietnam jusqu'à la fin février, tu me relanceras rendu là.
Mais finalement, mais ça a quand même bien à donner pour toi aussi, là, qui avait fait Big Brother.
Mais oui, c'est ça ajoute encore beaucoup plus de contenu à l'entrevue après. Puis non, ça c'est vraiment le fun. T'sais, quand j'ai vu la distribution de célébrités sortir à Big Brother, j'ai fait, ah, petit cachetier.
Ah, mon petit venimeux.
Non, mais c'est super le fun. Puis en plus, je pense qu'avant le début de la saison, je pense qu'il y avait juste Jean Airoldi qui avait confirmé sa participation. Puis là, ben, quand tout a été dévoilé en même temps, ben, et j'ai vu Daniel Savoie, j'ai eu un petit sourire aux lèvres de haha. Messieurs, on est à Boisvert Radio pour parler de sport et pour parler de hockey beaucoup présentement parce que là, on jasait avant la pause, c'est rendu 8-2 Canadiens. Là, c'est rendu 8-3. Ryan Poehling qui a marqué son deuxième but du match. Parlant de deux buts dans le match, ben, t'as Slavkovski qui en a trois. T'as également Gallagher et Dvorak qui ont deux buts chacun. Donc, Dvorak, j'avais vraiment oublié qu'il existait. Là.
Ah, Gallagher, j'avais oublié qu'il existait aussi, je veux dire, pour pas
non, mais moi, je fais juste regarder la masse salariale, puis je me rends compte qu'il est là,
c'est
s'il
vrai,
vous plaît.
C'est vrai, ouais, il est très présent sur la masse, pas beaucoup, sur la feuille de pointage.
Tout à fait. Puis, on parlait, là, c'est super intéressant, on parlait de, dans le fond, de la course aux séries dans l'Est, puis j'ai envie de vous entendre encore plus. On a parlé surtout des Flyers de Philadelphie. Ouais. J'ai envie, pourquoi pas, de vous entendre sur les Penguins de Pittsburgh. Parce qu'on dirait que c'est drôle, t'sais, au début de la saison, on visait les séries, puis là, ça marchait pas. Fait que là, à la date limite des transactions, on s'est dit, ah, ben finalement, on fera pas les séries. Fait qu'on va vendre, t'sais, on va essayer d'aller chercher quelque chose au repêchage pour avoir un meilleur club l'année prochaine. Et là, hop, on monte au classement. Et là, les Penguins de Pittsburgh sont présentement 9e dans l'Est, à égalité, par contre, avec les Red Wings de Détroit qui sont tout juste devant eux, mais avec un match en main. Et là, t'as plusieurs matchs qui sont en cours ce soir là. Les Red Wings ont perdu, notamment. Donc les Pingouins là ont une porte ouverte.
Ouais, ils ont une porte ouverte, mais je te dirais que hier la défaite a fait mal là, contre les Maple Leafs en prolongation. On a vu la réaction de
Carl Dubus à la fin.
Spezza à la fin, mais tu sais, je veux dire, ils ont tenu les Maple Leafs, ça a été un gros match. C'est juste que du côté des Red Wings, on affrontait les Sénateurs aujourd'hui. Si
les Capitals. Les Capitals.
Hey, ça fait mal ça aussi comme défaite, par exemple.
Ouais, ben surtout que les Capitals là, montent à 85 points.
Oh, ok. C'est les Capitals en ce moment qui passeraient.
Ok, la dernière carte.
Ouais.
Ok. Ouais. Tout ça parce que les Islanders jouent à soir et c'est pas encore terminé. Donc
les Islanders vont gagner, je crois.
Ben, ils mènent 3-2 contre les Rangers. Okay. Il reste 3 minutes. Donc, c'est pas encore gagné. Mais les Islanders, s'ils gagnent, pourraient encore une fois se rapprocher, tu sais, puis essayer de se distancier
du peloton.
De leur poursuivant et tenter de s'accrocher à cette fameuse troisième place dans la division métropolitaine qui change beaucoup de mains dernièrement. Ouais.
J'étais certain que ça allait être honnêtement les Red Wings là, qui allaient aller chercher la place de quatrième as en fait. Là. Ouais. Mais là, à voir ça rapidement, je le sais pas honnêtement. Puis je pense que ça va jouer jusqu'à la fin, puis c'est le fun comme ça aussi.
Hey, c'est super le fun. Moi, c'est une course aux séries qui est tellement déterminée d'avance. On peut penser un peu à ce qui se passe dans l'Ouest là, où Saint-Louis sont à 5 points de Vegas. Donc on sait que le top 8 est pas mal assuré. Donc ça, c'est un peu moins le fun à suivre. Lesquels vont passer. Tu as un peu une bataille avec Vancouver et Edmonton pour la première place de la Pacifique, mais encore là, il y a 5 points de différence. Donc la course aux séries vraiment dans l'Est, là, wow!
Mais
c'est tellement le fun.
J'ai l'impression que la dernière équipe dans l'Est, celle qui va rentrer malheureusement, ça va être une équipe un peu sacrifice. Là. Je vois pas Washington, Pittsburgh, Détroit, Philadelphie gagner une première ronde quand je vois les gros clubs Boston, Floride, Toronto, les
Rangers,
Hurricanes. Je sais qu'on sait jamais, on peut dire ça avec les Panthers aussi qui sont rentrés
l'année dernière, les Panthers.
Mais je vois comment les Penguins jouent, je veux dire au moment où ils ont échangé Genzo, ils sont rentrés dans une série de défaites de 6 matchs en ligne. Détroit aussi ont connu une séquence difficile, là. C'est les Flyers avec 8 défaites en ligne.
Ouais. Honnêtement, on dirait que personne ne la veut.
Ben,
à part les Islanders, peut-être un peu plus, mais on dirait que personne veut cette.
Puis même
cette
les Islanders, je veux dire, pour même aller les voir en vrai, ouais, avec toi, Bovert, j'ai pas l'impression qu'ils sont un club qui est assez. Comment je pourrais dire, compétitif pour être en série?
Ben, je pense qu'il y a un manque de talent, mais tout ce qui est genre l'aspect physique et t'sais, le fameux grit qui fait tellement différence en série éliminatoire, c'est quelque chose qu'ils ont et qui les différencie de certaines équipes de l'Est. T'sais, par exemple, les Panthers de la Floride, ça leur a beaucoup aidé l'année passée, là. Donc, est-ce que les Islanders pourraient causer une surprise en première ronde éventuellement contre les Hurricanes de la Caroline? Absolument pas. Mais quand même,
ben,
ça reste une équipe.
Regarde le match de ce soir où que les Rangers qui ont 110 points, qui sont premiers dans la métropolitaine, puis qu'en ce moment, les Islanders les battent. Je veux dire.
Ouais, mais c'est pas vrai avec les Islanders, c'est qu'ils peuvent gagner un match contre une grosse équipe, puis le lendemain, ils perdent 7-2 contre les Devils.
Ouais, mais après, ouais, tu sais, genre, en tout cas, hier, même chose avec les Pingouins contre les Leafs, tu sais, ça sera en prolongation, tu sais jamais, là. Les séries, c'est totalement une autre game, c'est plus la saison régulière. Moi, je pense que n'importe quelle équipe qui réussit à mettre le pied en série,
ben, ont une chance de gagner.
Autant de chances les unes que les autres. Après, tu repars à zéro. T'sais.
Et c'est pas pour rien que pendant des années, le discours de Jeff Molson et Marc Bergevin a été on vise des séries cette année. Parce qu'une fois en série, tout peut arriver.
Ouais. C'est ça.
Mais on l'a vu avec les Canadiens en 2021, ou... mais quand même.
Exact. En tout cas, moi, personnellement, ouais, en tout cas, là, je pensais que les Red Wings allaient rentrer. Là, ça fait mal, la petite défaite. Là. Et si c'est les Islanders puis les Caps, honnêtement, c'est.
Ben, ça va être. À mon avis, je pense que c'est les Caps ou les Penguins. Puis les deux, pour moi, ça serait parfait. Mais voir un Crosby ou un Ovechkin pour aller encore en série en fin de carrière.
Gary Bettman, il voit ces deux-là se battre pour les séries. Ils se croisent vraiment les doigts, puis ils espèrent beaucoup que. Parce que qui sait, peut-être qu'à l'âge qu'ils sont rendus, ça va peut-être être leur dernière participation de leur carrière en série. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que.
Ouais,
ça serait une belle histoire là, des voir compétitionner. Là.
Ouais. C'est les Red Wings que je pense que j'aurais aimé voir là. T'sais, on a fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années. On essaye. On n'est pas mauvais du côté des Red Wings. Là. On a des Larkin, des Debrincat.
On a connu un gros début de saison, mais ils ne sont pas constants. C'est vraiment
très jeune quand même aussi. Là, c'est ça, ils n'ont pas de vétérans quasiment.
C'est un peu comme les Sénateurs d'Ottawa, un peu comme les Flyers de Philadelphie, un peu comme les Sénateurs de Buffalo aussi.
Ouais.
Je veux dire, des équipes
beaucoup
qui sont en reconstruction.
Mais qui manquent un peu... d'entourage.
Ben, d'expérience. Il manque un peu d'expérience. Il manque de constance, surtout. Je pense que c'est vraiment le mot constance qui manque dans ces équipes-là. Ottawa, on le voit, ils ont le talent nécessaire pour se rendre loin, mais quand ils ne sont pas capables d'enchaîner les victoires, c'est pathétique. Année après année, ils sont toujours là dans le fond du classement. Ils ont des bons joueurs, mais ils sont jamais capables de sortir de là.
Depuis leur demi-finale, leur finale de l'Est contre les Penguins de Pittsburgh, je me souviens, j'étais en voyage scolaire. Je pense qu'on était à Boston à ce moment-là, puis là, pouf, perdre contre Boston.
Contre Pittsburgh. En match numéro 7 en prolongation, ça fait mal.
Ouais. Le fameux but, c'était Chris Kunitz, je pense qu'il avait marqué.
Exactement.
Wow. Mais c'est quoi que je devrais rajouter? Ah oui, ça. Ben, marque finale, là, pour votre information, le Canadien qui a gagné 9-3. Joël Armia qui a marqué un but. Hey, je m'attendais vraiment pas à un festin offensif de la sorte. Mais en même temps, puis là, on va passer rapidement sur ce sujet-là, là, mais les gardiens des Flyers de Philadelphie, là, il y a vraiment un problème. Là. T'es Samuel Ersen puis Ivan Fedotov, là, excuse-moi, là, mais tu vas pas aller chier loin en série avec ça.
Ben, surtout non, que leur gardien de début de saison était Carter Hart.
Et il est parti à London, à la police.
Carter Hart échangé à London pour rien du tout.
Ouais, ben c'est ça, contre une peine d'emprisonnement.
C'est sûr que c'est un coup dur pour une organisation contre les Flyers de même de voir ton premier gardien que tu vois comme gardien numéro un.
Puis surtout qu'il connaissait une très bonne saison.
Ben c'est ça, exactement. Tu sais, malheureusement, il a fait ce qu'il a fait.
C'est ça, ce qui est arrivé est arrivé, donc il est à la bonne place où il est présentement.
Mais c'est sûr que pour une organisation, quand je pense aux Flyers qui étaient quand même bien placés tout au long de la saison, là, on voit qu'il manque d'essence, mais peut-être qu'il y avoir eu un Carter Hart qui est, mettons,
ça
devant le filet.
Totalement changé leur saison.
Exactement.
T'es. Ah, mais c'est certain que les Flyers en ce moment seraient peut-être en série déjà. Là.
Ben, ça se peut très bien.
Carter Hart, là, je veux dire, c'est un gardien qui peut faire la différence. Tu sais, je veux dire, Fedotov puis Ersen, peut-être bien qu'ils peuvent faire l'affaire, mais c'est pas eux qui vont voler des matchs. Puis, genre, en tout cas, personnellement, genre, je connaissais pas Ersen avant le début de la saison. Fedotov, oui, là, parce que.
Ouais, à cause de son histoire avec le CSKA de Moscou.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est pas des gardiens qui vont vont te faire gagner des matchs nécessairement, puis ils vont être là, ils vont faire la job, ils vont en accorder 3-4 par match, puis après, ben il faut que t'en marques 5.
Ouais. Puis avec l'attaque des Flyers, tu sais, oui, sur papier, ça marchait en, ben, oui, ça marchait en début de saison, mais sur papier, c'est loin d'être l'offensive du siècle, tu sais, ben beau Owen Tippett, Sean Couturier, puis hey. Travis Konecny, là, mais...
Encore là, tu sais, on parlait d'équipe qui a pas de gars de 82 points, là, ça, ce n'est une qui n'a pas beaucoup en haut de 60.
Non, c'est là, exactement, t'sais. Une équipe qui manque un peu d'appui. Je sais pas pourquoi ils ont été en série en début de saison. Je présume que ça a été l'effet Tortorella dans les débuts.
C'est ça, puis j'entendais un analyste en parler, je me souviens plus c'est qui, là, mais l'effet Tortorella, là, c'est un super électrochoc pour passer d'un moins bon niveau à un niveau surprenant assez vite. Mais ce niveau-là redescend assez vite parce qu'à un moment donné, les gars s'écœurent de Tortorella.
Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, comme, ben, c'est un petit peu mais pas un mauvais exemple, mais c'est un petit peu raide. C'est comme si tu te fais fouetter. Ben, tu vas bouger assez vite, là. Mais tu vas te tanner, tu sais, à un moment donné. Mais c'est vrai.
Oui.
C'est un peu ça, pareil, tu sais.
J'aurais vraiment pas pensé à ça. Mais merci d'amener. C'est comme si tu te fais fouetter.
Je l'ai imaginé, mais tu sais, je veux dire, ça reste que Tortorella, à toutes les places qu'il va, il y a tout le temps des problèmes avec les joueurs. Puis, comme à un moment donné, je comprends, tu sais, un problème, ça se fait à deux, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans la LNH qui est réputé, premièrement, pour ça. Puis que, tu sais, on le voit directement, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il change beaucoup ces dernières années. Ouais. Honnêtement, être une organisation, je comprends même pas pourquoi tu le prends comme head coach. Genre, ça.
Ça fait deux, trois fois qu'il se fait engager à d'autres places, puis je me dis, crime, pourquoi il le réengage, il est fini, mais ils réussissent quand même à nous faire mentir. Puis, tu sais, on l'a vu en première moitié de saison, les Flyers, ça a marché, là, mais c'est juste que c'est pas un effet qui dure à moyen terme.
C'est ça.
Ça a marché avec le Lightning de Tampa, puis il a gagné sa Coupe Stanley. Ouais. Maintenant, les Flyers, là, où on s'attendait pas à être dans la course aux séries en début de saison, mais clairement, Tortorella a perdu son vestiaire, donc est-ce qu'on a une saison au-delà des attentes chez les Flyers? Oui. Mais est-ce que Tortorella risque de perdre son emploi à la fin de l'année?
Probablement.
Reste à voir ce que Daniel Brière va avoir comme plan pour lui.
C'est Daniel Brière. Mais c'est un
plan à long terme. Les Flyers, Daniel Brière le dit, ça a vraiment été étonnant qu'on soit là en début de saison parce qu'on repêche tôt quand même. Beaucoup dans les dernières années.
Hey, ils ont été chercher Michkov au sixième rang, là. Septième rang,
septième
rang. Puis là, c'est un gros début de saison. Puis je veux dire, ils n'ont pas fait d'acquisition.
Ben, ils sont allés chercher Jimmy Drysdale.
Ben ça, c'est parce que Carter Gauthier leur a fait un gros fuck. Là.
J'ai hâte de voir. Moi, j'ai confiance en Daniel Briand. Je pense qu'il peut apporter de quoi de bien aux Flyers de Philadelphie.
On voit déjà avec. Une très bonne tête d'hockey.
Je pense que la culture aussi qu'il essaie d'implanter dans le vestiaire. Peut-être qu'avec Tortorella, c'était peut-être le meilleur choix. J'aurais peut-être vu un Patrick Roy. Moi, rejoindre les Flyers de Philadelphie avec Daniel Brière, j'aurais peut-être
bon
donné de quoi
Québécois,
de beau, exactement. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner pour le futur. Je suis pas vraiment inquiet. Je pense que c'est la bonne personne là-bas.
Joueurs aussi,
exactement. J'ai hâte de voir la masse de joueurs qui va arriver prochainement. Puis mais là, on arrive dans une époque de la Ligue nationale de hockey où les clubs qui étaient forts, comme je vois Boston, Penguins, Washington, qui vont descendre en bas du classement.
Ouais, tout le temps. Ben là, les Penguins, mais Boston, à toutes les années, je les vois en dehors des séries. Encore cette année, ils sont premiers. J'ai assez
Pierre
hâte
Chara,
du sac
leur camp. Pierre Chara, bon. Ils vont être moins bons après ça. Perdre Bergeron, ils vont être moins bons. Perdre Krejci, ils vont être moins bons. Mais non, encore une fois, cette année.
C'est la culture. Puis je pense que en ce moment, je vois Boston, puis je pense au Canadien de Montréal qui se construit une culture. Je pense qu'on pourrait peut-être dans 5 ans se voir comme Boston. Si on réussit à bien implanter une culture, les joueurs, je pense, respectent.
C'est une culture différente, par contre.
Ouais, mais je pense que les joueurs respectent le personnel entraîneur. Je pense qu'ils veulent travailler avec le personnel entraîneur. Je pense que tout le monde veut gagner à Montréal. Ce qu'on voit à Boston, c'est vraiment, quand tu regardes les Bruins jouer, c'est une famille qui joue ensemble. Ouais. Tout le monde est allé à la défense. Un peu comme on voit aussi en Floride, les Panthers de Floride me fait énormément penser aux Bruins de Boston. C'est des équipes qui jouent ensemble, c'est des équipes qui se protègent, puis c'est des équipes qui, quand ils jouent bien ensemble, ben, sont numéro un, même quand on les voit sortir des séries. Là. Je pense que c'est ça. Les Bruins de Boston,
c'est un plusieurs experts voyaient et les Panthers et les Bruins à l'extérieur des séries.
C'est des excellents modèles de tu sais, ils ont, c'est pas des, oui, ils ont un Pasternak, oui, ils ont un Reinhardt, mais c'est pas des Connor McDavid et Dracheton.
Ils ont pas des joueurs tant flashy. Ça,
c'est juste que c'est un travail d'équipe, là, c'est un travail de constance et d'équipe.
Selon moi, le meilleur joueur peut-être en ce moment en Floride, en ce moment je sais pas, mais le nom, disons, c'est des Barkov, c'est des Ketchuk, c'est des
Reinhardt.
Ouais, Reinhardt cette année, mais
c'est un Reiner, tu sais, c'est un, il met les buts, mais tu sais, overall, il fait pas tant.
Ben, c'est Barkov, là. Tu mets n'importe qui avec Barkov, puis ce joueur-là va être incroyable. Barkov, on l'a vu l'année passée, Tkachuk, Barkov étaient ensemble. C'est saison incroyable de Tkachuk. Huberdeau, tu l'as enlevé, tu l'as séparé de Barkov, puis là, il bench à Calgary.
Dadonov a été la même chose aussi.
Mais c'est des gars tellement, c'est des gars complets, en fait.
Ouais.
C'est des gars qui vont, ils sont capables de brasser. C'est des gars qui est gentil. Barkov, là, s'il peut faire la passe avant de faire le but, je pense qu'il va faire la passe.
Puis Barkov, c'est un joueur qui est capable de juste être 200 pieds aussi.
C'est un joueur tellement sous-estimé. Là.
Ah ouais, c'est incroyable. Mais moi, je le sous-estime pas. Je le prends tout le temps dans mes pots. Mais je veux dire, Barkov. Là,
c'est une espèce de bonne idée, ça.
Cette année, il est pas pire quand même. Là, mais honnêtement, c'est juste que les pots, c'est tel que tel. C'est juste les points qui comptent. Mais Barkov, ça reste que dans une équipe, dans un vestiaire,
il va te faire un point par
match. Important, là. Genre, il reste en Floride. Tu sais, Huberdeau est parti, comme on l'a dit. Il y a des gros noms qui ont passé quand même en Floride, qui ont quitté. Lui, il a tout le temps été là. Ça fait longtemps qu'il est là.
Ouais.
Honnêtement, je pense que c'est vraiment un gros morceau dans le vestiaire. Puis en ayant des Tkachuk, des Barkov, des Reinhardt, qui font toutes des belles saisons, c'est des leaders. Et tu peux pas espérer et pas te rendre loin en série. Là. Surtout que l'an passé, plus, t'as passé proche avec quasi la même équipe. Là.
Ouais.
Fait que j'ai bien hâte de voir les séries éliminatoires. Je suis pas un grand fan des Panthers, mais honnêtement... Là,
allez voir jouer, moi, je sens que peu importe le match-up qu'ils vont avoir, les Panthers vont t'offrir un show en playoff. Ça va brasser.
Floride-Toronto en première ronde, là, on s'enligne pour
Que ce soit les Panthers avec Toronto, les Panthers avec les Bruins, que ce soit les Panthers avec le Lightning de Tampa Bay, ça va être tout des gros matchs. Ça va être vraiment... Cette année, j'ai hâte de voir les match-ups pour les séries, mais ça va être des séries qui vont être très excitantes à regarder, surtout les premières rondes.
Ouais, puis c'est ça, je regardais là, tous les matchs de séries, tous les match-ups, c'est incroyable.
Ouais.
Tout le temps.
Ben, cette année, on a des équipes qui sont dominantes, puis je pense que tu les mets un contre l'autre, c'est juste des chocs de titans.
Ouais, c'est ça. Dans l'Ouest, là, c'est encore pire que dans l'Est.
Ah oui, tu regardes. Dans l'Est, Colorado, Winnipeg, c'est toutes des équipes qui peuvent gagner la centrale.
À mon avis, Winnipeg va se faire sortir assez vite. Là,
à mon avis aussi, mais tu sais, on sait jamais.
Avec vraiment 20 séquences en plus.
Tu regardes Vancouver, Edmonton, les Kings de Los Angeles, même si les Kings ont connu une fin de saison un peu plus décevante qu'on l'attendait, ça reste une équipe qui a le potentiel.
Est-ce que Vegas va dépasser. Va dépasser Los Angeles pour nous offrir un Edmonton Vegas en première ronde. Si oui, ça serait capoté là.
Pour l'instant, sont au même nombre de matchs. Los Angeles a un point de plus. Ça serait bon une troisième année en ligne. Ça serait une série qui brasserait. Je vois pas les Kings l'emporter encore, mais ça serait. Edmonton n'a pas le choix de gagner.
Ah, Edmonton Vegas, moi je pense. Honnêtement, je pense que Edmonton vont se rendre loin cette année. Je pense qu'ils vont sortir de l'Ouest après. Je pense qu'ils vont être en finale de la coupe parce que
c'est les Stars de Dallas puis l'Avalanche du Colorado. Le Colorado, je regarde cette équipe là puis je vois pas comment ils peuvent perdre en série.
Ouais.
Présentement, mais je regarde les Stars de Dallas aussi, je vois pas une équipe qui est capable de battre à part le Colorado. C'est des équipes qui sont tellement bien bâties
Puis le Colorado, ils vont être bons encore longtemps.
J'allais dire le même commentaire pour les Stars de Dallas. Là. T'as Stankoven qui vient d'embarquer. Maverick Bourque qui vient de sortir de la Ligue américaine qui a dominé où est-ce qu'il était. Puis c'est des jeunes. J'ai oublié son nom, le Wyatt Johnson.
Ça vieillit un peu quand même à Dallas, dans le sens qu'on a des Tyler Seguin, des Jamie Benn, qui sont des grosses têtes quand même.
Ouais, mais
des belles relèves qui s'en
viennent. T'as des Robinson, des Johnson, c'est incroyable.
Ils ont la défense.
Oui, puis t'as Attinger aussi qui a juste 25 ans dans les buts. Ouais. Là. C'est au début de sa carrière encore, lui, pour gardien.
On va les voir en haut des classements pendant encore vraiment longtemps.
Au moins jusqu'en 2030, facile. Là. C'est une équipe que je regarde aller, puis ils recrutent de manière exceptionnelle.
Ils passent vraiment sur le radar, puis tu sais, des gars comme Rupe Hintz, là, ils sortent de nulle part, puis ils font des saisons d'un point par match. Là.
Ben, le repêchage, je pense, c'est de 2019 où ils ont repêché Robinson, Ottinger, puis Iskanen dans le même repêchage. C'est trois choix qui ont changé leur.
C'est trois joueurs de franchise.
Exactement.
Puis rapidement, en terminant, il reste à peu près 3 minutes. Kucherov, 136 points. McKinnon 133, McDavid 130. Mais McDavid a des matchs en main sur les autres. Qui va gagner le trophée Artros?
À mon avis, c'est parce que c'est ça. Là, le trophée Artros, c'est pour le meilleur pointeur, dans le fond. À mon avis, Kucherov va l'avoir.
Va le garder.
À mon avis, il y a une assez grande avance.
Avec ces gars-là, il marque.
McKinnon, il peut te faire demain matin un match de 6 points.
Et Kucherov aussi.
C'est ça le problème.
Ouais, un petit peu
Juste ce soir, Kucherov fait 2 points. Puis là, McKinnon commence sa partie. On va voir combien il va être capable d'en mettre.
C'est sûr que tu sais, je veux dire, ils sont tous capables d'en mettre.
Ah, il y a déjà un point. C'est 1-0 Colorado, déjà un point.
Ces joueurs-là sont incroyables. Puis, honnêtement, si je pouvais tout leur donner, là. Genre, McDavid, Kucherov puis McKinnon là, cette année.
Mais il faut pas oublier que. McDavid a quand même commencé la saison avec comme.
2 points en 10 matchs, quelque chose de
exactement,
même.
Exactement.
Ouais, tu peux quand même pas.
Puis en plus,
il a
été blessé 2 matchs.
Non, je sais, mais je veux dire, quand tu regardes, ouais, quand tu regardes le retard qu'il y a eu, en plus, il s'est blessé en début de saison.
S'il avait commencé à faire son même nombre de points qu'en ce moment, il faisait encore une saison de 153 points. Tu sais, moi, pour McDavid, en ce moment, c'est une saison qui est un peu décevante dans un sens parce qu'il en a fait 153 l'année passée.
Ouais.
Il va peut-être en faire 140, disons. Tu sais, ça reste que t'es dans ton prime. Faut que t'accotes tes saisons.
Ouais.
À un moment donné, faut que t'accotes tes saisons. Quand t'en fais 153 des points, c'est dur à accoter.
Surtout quand t'as une saison où t'as 100 passes, là.
Mais tu sais, il doit quand même pas se dire.
Il y a une passe du plateau des 100 cette année.
Ouais.
C'est
il doit quand même pas être genre, je suis satisfait, non, parce que t'as pas battu ton record.
Quand même, David maintenant se fout un peu des statistiques. Je pense que lui, son objectif maintenant, c'est de remporter la coupe cette année.
Il va vouloir sa coupe.
Drysdale, ça a été décevant cette année.
Drysdale, c'est vrai, ça a été décevant. Puis on parlait de tantôt là, le nombre de joueurs à 82 points. Là.
Ouais.
T'es présentement des joueurs qui ont une moyenne d'un point par match. T'en as à peu près 29. Là. Puis même plus en descendant, si t'as des joueurs blessés. Puis des joueurs déjà à au moins 82 points, t'en as 20. Puis je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où Jamie Benn a gagné le trophée Hartross à 87 points.
Hey,
on est tellement loin de ça là.
On s'en vient dans une ligue là, qui est offensive. Il y a des matchs qui des 7 buts là, par match, il y en a beaucoup là.
Mais t'es juste à soir le Canadien qui pote 9 buts aux Flyers.
Tu sais, après, est-ce que genre là, on rentre dans un autre débat, mais est-ce que tu te dis, je sais pas, avec la technologie, les bâtons, les équipements des gardiens, est-ce qu'on grossit ça? Est-ce qu'on rapetisse un peu les buts?
Mais
parce que oui, c'est du spectacle des buts, mais à un certain stade, je ne sais pas à quel point. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai genre des games qui sont plus serrés, des 3
mais
des,
je pense
que
l'élément déclencheur qui offre à la Ligue nationale le nombre de buts qu'on voit, c'est, je pense, que le niveau de contact physique et la peur.
Diminue.
Ouais,
ça se peut.
J'ai l'impression qu'il y a des joueurs de hockey comme des Caulfield, puis je veux rien enlever, là, c'est des joueurs qui sont exceptionnels, mais tu sais, je pense pas que quand tu vois la ligue de hockey en 2004-2005,
il y avait des gros, il y avait pas de joueurs comme
ça. Tu devais t'élever la tête parce que sinon t'avais des Todd Bertuzzi puis des
c'est ça, tu pouvais pas faire le tour.
Steven qui allait t'attendre au centre.
Tu peux pas faire le tour du net pour faire un Michigan dans ces années-là parce que tu faisais le tour du net, tu faisais ouvrir l'autre bord du but. Tu sais, c'est j'aime qu'on protège nos joueurs, mais il faut pas enlever le côté contact du hockey. Parce que ça reste essentiel au hockey. Puis là, je trouve que maintenant, les gens sont peut-être trop.
Gentils?
Ben, pas trop gentils, mais j'ai l'impression que, genre, maintenant, pour un double échec ou pour un slashing, tu peux manger une suspension. Puis je suis comme, OK, mais.
Les mentalités ont changé.
C'est ça. Ça ouvre la porte au.
Faut pas enlever ce côté-là du sport, le côté physique, etc. Mais je pense. Tu sais, personnellement, je vois des gars comme Caulfield qui mesurent 5 pieds 6 à être dans la ligue, 5 pieds 7. C'est comme tabarouette, tu sais. Puis, tu sais, Caulfield, il en a pas mangé des grosses mises en échec. Ça veut dire que, mine de rien, ça se calme vraiment. Puis la place est plus au talent qu'au physique, tu sais.
Ouais.
Puis après, est-ce que c'est correct? Bon, ben, ça dépend
des
opinions, je pense.
Chaque personne va avoir son idée là-dessus.
Mais honnêtement, moi, tu sais, déjà, comme les bagarres, ça diminue un peu. Tu sais, ça parle tout le temps. C'est tout le temps la discussion de peut-être les enlever.
Ben là, il y a des expulsions. Le avec Matt Rampey, après 2 secondes, une expulsion.
Mais tu sais, honnêtement, tu sais, j'ai vu de quoi sur Facebook, justement. C'était quand il y a eu la bagarre générale entre les Devils et les Rangers. J'étais genre... toutes les joueurs qui sont expulsés, c'est comme, est-ce que ça a encore sa place? Oui, là. Si ton gars se fait taper dans la bande la game d'avant où il y a de quoi, là, lâchez-les, les gars, là, puis allez vous battre, les gars, là, tu sais. En tout cas, après, je pense que c'est chacun son opinion là-dessus, mais c'est un beau débat quand même.
Ah, mais c'est ça. Vous lancez ce débat-là, il reste 1 minute à l'émission. Mais qu'est-ce que tu veux? Hey, je vais être plate, mais j'ai malheureusement de pouvoir conclure ça. Merci beaucoup, là, Alexandre Matisse, d'avoir été parmi nous ce soir. Hey, merci. Alex, ça faisait longtemps.
Ouais,
je suis content de t'avoir de
aussi,
retour.
Très content d'avoir participé.
Matisse, ça faisait 2 semaines, mais quand même, à chaque fois que t'es là, tu me donnes le sourire.
Ah, ben Charles, ben Julien, ça faisait 2 semaines, mais je m'étais déjà ennuyé, là. Fait que c'est correct. Merci de m'avoir accueilli encore ce soir.
Ouais, je sais pas encore à quel point il reste beaucoup d'émissions à cette saison de Boisvert Radio. Je sais que la session universitaire là, prend fin aux alentours du 28 avril. Probablement que le 30 avril, on va avoir une émission, mais après ça, On va voir. Donc, je voulais vous faire là, cette mise à jour-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une émission la semaine prochaine. Et notre invité, on vous fait découvrir, on aime vous faire découvrir des nouveaux sports à Boisvert Radio. La semaine prochaine, on va vous faire découvrir le patin artistique synchronisé en recevant Marianne Tremblay. Donc, voilà. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.